Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Live en direct jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En podcast et un dimanche soir. Comme on les aime, comme on les adore sur RMC. Une énorme affiche à 20h45. Marseille-Nice pour conclure cette 22e journée de Ligue 1. L'OM qui vise le titre, si si, on le dit, contre des Niçois en opération remontada avec Digard. On sera au Vélodrome dans quelques secondes pour les compos et les analyser avec vous au 32-16 et avec Kevin Diaz, bien sûr. Il est là comme tous les dimanches soirs. Comment ça va, Kevin?
Salut Thibaut, salut à tous, ça va très bien.
On peut dire que Marseille joue le titre, ça va, pas de ça chez nous.
Écoute, Marseille joue le titre, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le vestiaire, mais je pense qu'ils doivent jouer le titre, en tout cas.
32-16, supporters marseillais, supporters niçois. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Adrien est là, au standard. Coup d'envoi 20h45. On débriefe ensemble les compos qu'on va vous rappeler dans un instant. On aura des gros matchs à l'étranger également ce soir qu'on va suivre ici. Le Barça peut se rapprocher un peu plus du titre à partir de 21h. Réception de Séville au Camp Nou. Et puis, derby en Italie, 20h45. Inter à 6 000 ans. On suivra ces deux matchs sur RMC. Et puis, on aura également du rugby à partir de 21h05, Stade français, UBB. Vous êtes sur RMC, il est 20h, c'est l'After Live. On vous attend au 32-16. Venez avec nous, venez dans l'After, venez au Vélodrome où nous attendent sur place Jeannot Rességuet et Florent Germain. Salut les gars.
Salut Thibaut.
Bonsoir tout le monde.
Salut Kevin.
Salut messieurs.
Les compos dans un instant, mais bon, on arrive ce soir au Vélodrome. On en a un peu parlé tout au long du week-end. J'ai vu passer des petites infos de Flo Germain. On attend quoi comme influence? Record ou pas ce soir?
Non, record, enfin, dans le top 3. Troisième affluence de l'histoire du Vélodrome, de l'OM. Donc, 65 200 supporters. Ça s'explique aussi par le fait que la zone réservée aux visiteurs a été commercialisée pour les fans de l'OM, puisque malheureusement, j'ai envie de dire, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours regrettable que les supporters adverses ne puissent pas faire le déplacement, mais les Niçois sont privés de ce match au Vélodrome. Donc, on a pu un petit peu élargir la jauge et du coup 65 200, c'est effectivement le top 3 des affluences de l'OM.
Ça va être une énorme affiche, un gros match de foot, on l'espère assurément, ça sera beau dans vos oreilles ce soir sur RMC. Les compos, messieurs, Flo, Jeannot, les compos de ce Marseillais, s'il vous plaît.
Allez, la compo marseillaise, et comme on le disait ce matin sur RMC, Vitinha est titulaire. C'était la grosse cote, la surprise, la sensation, parce qu'il n'est arrivé que mardi soir à Marignane. Mais physiquement, il a impressionné. Et puis surtout, il y a une volonté de faire tourner, de piquer un peu cet OM qui parfois a mal débuté ces matchs-là contre Monaco et contre Nantes. Compo marseillaise, Paul Lopez dans le but, Mbemba, Gigo et Balerdi pour les trois actions. Jonathan Clauss de retour en tant que titulaire, cette fois piston droit, Nuno Tavares piston gauche, Rongier, Guendouzi au milieu de terrain et trio offensif. Payet, ça c'est Tudor qui avait vendu la mèche hier, il est capitaine, Dimitri Payet. Under et donc Vitinha, la recrue portugaise de l'OM.
Pour ce qui est de Nice, Didier Digard est assez ambitieux puisque il a modifié la structure offensive de son équipe avec l'arrivée de Moufi. Boudaoui, lui, sera sur le banc des remplaçants, ce qui nous donne la confirmation d'une défense à 3 comme ça avait été le cas à Lens. Schmeichel dans les buts, Ndaye Chimié sur le côté droit de cette défense à 3, la recrue Todibo dans l'axe et Dante à gauche. Pour les joueurs de côté, piston droit Lotomba, piston gauche Barre, et ensuite c'est là où on parle d'ambition. Tu me diras ce que tu en penses, Kevin. Ramsey, Thuram, Diop, Mofi, Laborde. Donc Diop, Mofi, Laborde sera le trio offensif, et il y aura deux joueurs pour le rôle de récupérateur relayeur, Ramsey avec Thuram.
Il est 20h03, vous êtes sur RMC. Voici les clés de cette rencontre. 20h45, le coup d'envoi de ce Marseille-Nice avec Jeannot et Flo au Vélodrome. 32-16, hein, on vous attend, supporters marseillais, supporters niçois. Vous nous appelez, vous venez réagir à ces compos, et notamment côté marseillais, l'équipe qui reçoit ce soir la titularisation de Payet. On en parlera dans un instant, mais d'abord celle de Vitinha. On est d'accord, Kevin, c'est quand même une surprise de le voir titulaire là, à peine arrivé. Il est là depuis quoi, 4-5 jours. Titulaire ce soir, c'est une surprise.
Ouais, ça peut être une surprise de le voir titulaire alors qu'il n'a pas encore porté le maillot de l'OM, c'est-à-dire qu'il n'a même pas fait un petit passage par le banc et puis une entrée de, disons, 15, 20, 30 minutes maximum. Mais après, c'est un joueur qui était en plein championnat avec avec Braga, qui est vraiment au top de sa forme. Donc, ouais, c'est pas non plus complètement complètement dingue de voir un joueur qui vient d'arriver mais qui est titulaire dans son précédent club être tout de suite d'attaque avec son club.
Ça veut dire, Flo, que les premiers jours se sont très bien passés, les premiers entraînements se sont très bien passés, l'adaptation est bonne.
Oui, il y a deux explications principales. Déjà, c'est ça, effectivement, il a pu faire deux séances tout seul pendant que ses coéquipiers étaient du côté de la Beaujoire. Il n'a pas fait le déplacement, donc physiquement, il a bien bossé. Et puis le staff a vu que, voilà, comme le dit Kevin, qu'il était en forme, en pleine saison, et que voilà, il changeait juste le maillot, mais finalement, les sensations physiques étaient là. Et même devant le but, où des retours qu'on a eu, c'est que quelques séances se sont très bien passées. Et puis l'autre paramètre, c'est que Marseille enchaîne les matchs. Il y a eu donc Monaco il y a 8 jours, le déplacement à Nantes mercredi, et puis la perspective de recevoir le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Igor Tudor, il a besoin de faire un petit peu tourner, pas énormément mais un petit peu, et notamment en attaque où il a trouvé que les débuts de rencontre et à juste titre contre Monaco et contre Nantes étaient un petit peu moyens de cet OM. Il n'a pas retrouvé la flamme souvent présente en début de rencontre chez ces Marseillais, donc un petit turnover léger avec Payet et Vitinha, ça permet de booster l'équipe dès l'entame de match.
Et puis alors nous, un petit peu comme nos auditeurs ou les fans de foot en France, on va découvrir Vitinha, parce que souvent on me demande, moi j'avoue que Braga, le Sporting Club de Braga, c'est pas le club que je suis le plus assidûment au Portugal, donc moi aussi j'ai déjà vu pas mal d'images, mais je vais le découvrir. En tout cas de ce que j'ai vu, ce que j'ai beaucoup aimé finalement, c'est son travail sans ballon. J'ai vu un joueur qui passe tout à fait, en tout cas qui semble passer tout à fait dans la philosophie d'Igor Tudor, puisque c'est quelqu'un qui est capable de récupérer beaucoup de ballons, qui est capable d'être agressif, de sprinter également vers son but pour revenir sur un défenseur, etc. Donc je pense qu'en termes d'énergie, en termes de volume de course, il passe tout à fait. Maintenant, il va falloir voir si techniquement dans les transitions et dans les combinaisons il va passer aussi, mais j'en doute pas vraiment.
32-16, un supporter marseillais. N'hésitez pas à vous nous appeler si vous voulez venir réagir à la titularisation de Vitinha. Finalement, c'est laquelle la plus grosse surprise? Bon, alors, c'en est pas une, puisque Tudor avait vendu la mèche hier en conf, mais Jeannot et Flo, Payet titulaire ce soir, c'était pas arrivé depuis un bon moment. Il y a eu début janvier, je crois, mais sinon...
Il faut pas oublier, Flo, aussi, qu'il avait été titulaire à l'aller, et il avait été très bon avec Alex Sanchez, d'ailleurs.
Exactement, il avait fait un très bon match à l'aller. Moi je dirais que la plus grosse surprise, c'est quand même Vitinha.
Ouais.
Parce que Payet
ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, le turnover, maintenir la concurrence, maintenir des joueurs sous pression au regard du calendrier et au regard de ce qui va se passer pour l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines, qui plus est si l'OM sort le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France.
Payet, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Igor Tudor hier, je l'ai trouvé très sincère. Il était même un peu dans l'empathie en disant pour la première fois que son système de jeu, c'est vrai, ne correspondait peut-être pas forcément au style Payet, mais malgré tout il loue les efforts qu'il fait, la mentalité.
On va l'écouter si tu veux, Flo.
S'il est prêt, il suffisait de me le glisser et on le lance.
Bah voilà, tu dors.
Diciamo che un giocatore con...
Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'il a des particularités. C'est un joueur qui a toujours été important de par son histoire et qui l'est encore. Après, si je dois vraiment être honnête, c'est vrai que mon ADN foot ne s'adapte peut-être pas vraiment à lui. Mais après, il peut nous apporter d'autres choses, comme des tirs, des solutions aussi dans les passes.
La sua qualità di soluzioni, di tiro, di passaggio.
Il a une qualité qui est supérieure à la normale et ça compense un peu.
Allora va compensata un po' questa cosa qua.
Après, je sais que ça n'a pas toujours été facile pour lui cette saison, donc je le remercie beaucoup, car il s'est toujours très bien comporté. Demain, c'est un match important et il sera titulaire parce que je crois que c'est vraiment juste.
Voilà Igor Tudor au micro de Flo Germain hier en conférence de presse. Dans un instant, je vais prendre Naïm qui nous a appelé au 32-16, mais juste déjà sur cet aspect-là, Kevin. En fait, c'est étonnant parce que d'un côté, il dit Payet, alors bon, il fait les louanges sur les passes, etc., mais il dit il n'est pas forcément compatible avec mon foot. Et de l'autre côté, il le met titulaire ce soir pour un match important, c'est ce qu'il dit. C'est un peu paradoxal quand même, c'est-à-dire qu'il...
Il va pas le virer du vestiaire, donc.
Voilà, non,
il faut faire jouer un peu.
Mais non, mais dans ce cas-là, tu t'attends à ce qu'il continue à être remplaçant de temps en temps, etc. Il le met titulaire.
Il est plus souvent remplaçant que titulaire, donc quoi qu'il arrive, il est remplaçant de temps en temps. Non, moi je trouve qu'il y a un mot qu'il a employé et qui est juste pour le coup, c'est le mot juste, justement. Il a dit qu'il considérait que c'était mérité, que c'était juste pour Dimitri Payet de le faire jouer parce qu'il n'a rien dit. Justement, il est resté professionnel, il est resté sur le banc. Quand on a fait appel à lui, même quelques matchs où en Coupe de France, il a été présent aussi. Et donc, il y a un moment, comme disait Flo à l'instant, c'est un joueur de l'effectif, c'est un joueur important, c'est un joueur qui compte dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Et donc, il faut aussi le respecter. Et c'est un joueur qui peut apporter. Donc, c'est aussi à l'entraîneur, à un moment, de mettre sa philosophie de côté pour s'adapter à son effectif et pour s'adapter à un de ses cadres qui, de toute façon, peut quand même faire de bonnes choses avec l'OM.
Parce que tu peux le voir autrement, Thibaut, c'est qu'en le mettant titulaire ce soir, c'est, alors sauf s'il fait un énorme match, deux passes D et un doublé, mais il y a des chances qu'il ne soit pas titulaire mercredi contre Paris. Je ne dis pas que c'est le match le plus important parce que l'OM veut évidemment distancer les Lensois, rester à distance du PSG, etc. Mais Alexis Sanchez reste un titulaire quasi indiscutable. Verretou reste un titulaire quasi indiscutable. Et là, ce soir, il y a un léger turnover qui est fait et donc Payet en profite.
Oui, t'as raison, c'est une bonne indication. Peut-être que le match de Paris, finalement, dans l'esprit de Tudor, est plus important que celui de ce soir. 32-16 pour réagir. Naïm, dans un instant, on fait une première pause dans l'After Live. Il est 20h10 avec Kevin Diaz, avec au Vélodrome, Jeannot Rességuier, Florent Germain dans 35 minutes. Le coup d'envoi d'OM Nice ici sur RMC. On continue avec vous, supporters marseillais, supporters niçois, de débriefer les compos Vitinha, Payet, Guendouzi qui recule d'un cran, c'est pas si souvent cette saison. Et puis côté niçois, la titularisation de Mofi notamment. On vous attend au 32-16, on revient dans un instant.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz, avec Jeannot Rességuier, Florent Germain en direct du stade Vélodrome pour le Marseille-Nice, coup d'envoi 20h45 à vivre ici en intégralité avec beaucoup de bruit dans les oreilles ce soir. Soyez prévenus, vous réagissez au compo marseillaise, niçoise au 32-16. On fera le GC Nice dans quelques instants, mais on a Naïm qui est là, supporter de l'OM au 32-16. Salut Naïm.
Salut l'équipe.
Salut Naïm.
Eh, on va super. Et toi, est-ce que t'es content? Est-ce que t'es excité avec la compo que nous ont annoncé Jeannot et Flo? Vitinha qui est là, Payet également. Qu'est-ce que tu penses de cette compo?
Vitinha, Payet et quelque chose. Alors je sais pas si vous en avez parlé, mais le retour de Jonathan Clauss titulaire.
Oui, Flo l'a mentionné.
C'est important, surtout dans le système de Tudor, avoir le retour de Jonathan Clauss. Pour moi, c'est bon. Si on met de côté un peu l'attractivité Vitinha, c'est la grande nouvelle. Sur cette compo, parce que moi en fait quand Sanchez-Ender jouait piston droit et qu'on avait en fait Malinovski avant droit, donc derrière l'attaquant, ça faisait deux gauchers sur le côté droit et je trouvais qu'en fait on avait un jeu par moment un peu stéréotypé avec deux joueurs qui aiment rentrer sur leur pied gauche. Là on a Sanchez-Ender et Jonathan Clauss qui pourra dédoubler et donc faire des centres du droit avec cette présence dans la surface de Vitinha notamment. Donc moi, la bonne nouvelle, pour moi, du moins la grande nouvelle, c'est d'abord celle-ci. Ouais. Ensuite, pour ce qui est du retour de Dimitri Payet, je pense que Kevin Diaz, je suis d'accord avec ce qu'il disait, à un moment, il faut savoir faire preuve d'un petit peu d'intelligence et s'adapter à l'effectif qu'on a. Payet, ok, il est sérieux, il est dans la dynamique de groupe, mais il faut le laisser concerner. Et à un moment, si tu le laisses sur le banc, si tu le fais jouer 5-6 minutes tous les deux matchs, ça n'ira pas. Donc là, on arrive sur une semaine qui va être compliquée avec le déplacement, du moins avec la réception du PSG qui arrive mercredi. Mmh. Donc comme dit, je pense qu'il n'a pas l'intention de le faire jouer mercredi, mais ça paraît être une bonne option de le faire jouer ce soir. Bon, on aura un trio offensif un peu exclusif. Mais en tout cas, ça a de la curiosité. Hein. Voir le duo Vitinha, Dimitri Payet avec des Jonathan Clauss Tavares sur les côtés qui peuvent venir alimenter tout ça. Ça,
et Naïm,
pour moi perso, ça donne envie.
Et du coup, est-ce que tu analyses un peu ça comme ce que peut-être laissait entendre Flo il y a quelques instants, que finalement cette compo on fait un peu tourner ce soir et peut-être en creux, c'est le match de Paris, le match le plus important entre celui de ce soir contre Nice et celui en Coupe de France. Est-ce que toi d'ailleurs tu penses pareil entre ce match de championnat où tu peux revenir un peu plus près de Paris, échapper un peu au Lensois, et la Coupe de France, c'est celui de mercredi est plus important?
Non, moi je les mettrais sur le même degré d'importance. Et alors, est-ce qu'on fait tourner ce soir? Il y a quand même, on pointe la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, il y a quand même Dimitri Payet, il faut savoir qu'il y a encore un peu plus de 6 mois, c'était le premier nom qu'on mettait sur une composition d'équipe à l'OM. Donc aujourd'hui, son statut n'est plus le même. Il est titulaire. Pour moi, c'est pas faire tourner. Et si c'est faire tourner, quel luxe. Juste avant, je regardais le banc de l'OM. Alexis Sanchez, Malinovski, Unai, voilà, il y a de quoi faire entrer. Et un match comme c'était 90 minutes, Igor Tudor a parlé en conférence de presse de l'importance des 5 changements et de la manière dont ça pouvait changer la vision qu'il a sur un match et sa manière de gérer un match.
Oh, Naïm, tu te fais siffler par le Vélodrome. Hein, je crois plutôt Jeannot et Flo, c'est les Lensois, peut-être Guérin s'est chauffé.
Les Niçois qui sortent, effectivement. Et les premiers sifflets, c'était pour Clément Turpin. Donc voilà, chacun a son degré de bronca, mais les Niçois, ça fait du bruit, effectivement, à la sortie, avec, je crois, Dante en premier, qui a foulé la pelouse donc du Vélodrome.
Sur ce que disait Naïm, Flo, Jonathan Clauss, c'est vrai qu'il a été blessé pendant quelques semaines. Bon, on a vu contre Nantes son entrée en jeu, la passe D, il a fait un excellent retour, hein. C'est sûr qu'il a l'air bien.
Oui, alors lui n'était pas forcément satisfait parce qu'il loupe une occasion, oui, et ouais. Donc il s'en voulait un petit peu, mais il en a souri en disant que ça allait rapidement revenir et qu'il allait petit à petit retrouver ses sensations. Il a été absent plus longtemps que prévu parce qu'au départ on estimait que c'était juste une petite alerte aux adducteurs, et finalement on a pris beaucoup plus de précautions que imaginé au départ. Il faut qu'il retrouve le rythme aussi, hein, parce que Under en son absence a été un piston dans un style plus offensif, qui percute plus, qui entre plus dans l'axe, mais à contrario il y avait moins de centre, et on sait que c'est le gros point fort de Jonathan Clauss, de déposer des bons ballons dans la surface.
Est-ce que Flo, tu peux me dire un mot sur cette histoire de l'Atlético Madrid là? C'était quand même très étonnant que l'Atlético tente de faire Jonathan Clauss comme ça alors qu'il vient d'arriver à l'OM.
Non, mais nous on l'a dit sur RMC, pour nous il n'y a eu aucune offre.
Okay. Non, mais on est d'accord qu'il est bien à l'OM.
S'il y a eu quelque chose, c'est uniquement avec les agents qui auraient été contactés. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'il n'y a eu aucune offre déposée par l'Atlético sur la table de l'OM, et qu'il n'y a même pas eu de contact entre dirigeants au sujet de Jonathan Clauss. Donc ce n'est pas allé très loin.
Tant mieux, parce que moi quand même, Jonathan Clauss, je trouve que c'est une recrue exceptionnelle pour l'Olympique de Marseille, dans le sens où c'est un joueur mature. Alors certes, il n'a pas un background exceptionnel parce que voilà, il vient d'un profil un peu disons particulier, mais aujourd'hui arriver à avoir un joueur comme ça sur le couloir droit, franchement ça n'a pas de prix. Il passe tout à fait dans la philosophie d'Igor Tudor et de l'Olympique de Marseille.
32-16, on vous attend, supporters marseillais, supporters niçois, n'hésitez pas pour débriefer les compos. Naïm, je voudrais avoir ton avis là, un dernier mot avec toi dans cette compo. Oui. C'est Guendouzi qu'on va retrouver un peu plus bas, à peut-être sa position, j'allais dire naturelle. Enfin, c'était avant que Tudor arrive, c'était là où on le retrouvait depuis le début de sa carrière. Mais il va retrouver, il va être devant la défense. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de le retrouver là,
oui,
également?
Oui, je suis content qu'il redescende d'un cran. On avait tous remarqué que quand il joue devant, il était moins bon. Alors certes, il ramenait un peu plus de densité dans le pressing, un peu plus d'impact. En revanche, dans la créativité, c'était plus limité. Quand on a un joueur comme Dimitri Payet et qu'on compare avec Guendouzi, dans la créativité, dans la manière de faire circuler le ballon, de trouver ce qu'on appelle les passes des champions qui cassent les lignes, c'est pas sa qualité. Moi je préfère le voir au milieu, mettre l'impact au milieu, la densité au milieu, et avoir un joueur un peu plus créatif, un peu plus capable de faire les différences dans les 30 derniers mètres comme Dimitri Payet.
De toute façon, Matteo Guendouzi sera pas forcément en concurrence avec Dimitri Payet, hein. On sait que Dimitri Payet, on vient d'en parler, c'est un profil un peu à part dans l'effectif et dans l'esprit de l'entraîneur marseillais. Celui qui va vraiment être en concurrence pour ce poste derrière l'attaquant, ça va être plutôt Hasdin Unai, je pense.
Guendouzi a joué quand même une grande partie de la première saison.
Mais je veux dire qu'il pourra toujours jouer, mais il n'est pas en concurrence avec Payet. Il va être en concurrence avec Unai, Under et Malinovski.
Dans les profils, ils ne sont pas concurrents. Après, sur le poste, ils occupent le même poste. Du moins, ils ont occupé.
Mais en fait, c'était une façon de te dire que je ne suis pas sûr que Dimitri Payet rentre vraiment dans la discussion en termes de concurrence sur les gros matchs.
C'est clair. Moi, t'as raison. Ce que je voulais dire,
ouais,
c'est que si je dois choisir pour avoir un joueur à ce poste-là, je préfère avoir Dimitri Payet.
Merci Naïm merci. De nous avoir appelé ce soir. Bon match à toi. Bonne merci, première bon avec Vitinha notamment. Et tu reviens quand tu veux dans l'after. Bye bye Naïm.
Avec plaisir, salut.
À très vite, il est 20h19. C'est l'after live. Vous êtes sur RMC avec Kevin Diaz. 20h45. Le coup d'envoi de ce Marseille-Nice. Jeannot Rességuier, Florent Germain sont au Vélodrome dans quelques minutes. Les compos niçoises. La compo niçoise avec vous, supporters niçois 32-16. Juste, j'aimerais ton avis là, Kevin, sur les derniers matchs de l'Olympique de Marseille. En attendant ce match face au Paris Saint-Germain mercredi en huitième de finale de Coupe de France, est-ce que dans la gestion de l'effectif là, par rapport à la compo de ce soir, tu trouves que c'est cohérent ce que fait Tudor, notamment Unai là, qui est sur le banc, on imagine qu'il va rentrer en cours de match comme l'autre jour?
Ouais. Bon, après Unai c'est un des joueurs qu'on aurait pu voir titulaire quand même ce soir. Maintenant,
titulaire contre Paris peut-être.
Ouais, il y a de grandes chances, mais en tout cas moi vraiment elle est vraiment je ne vais pas dire exceptionnelle, mais elle est vraiment excellente. En tout cas, la gestion de Igor Tudor, qui a été certaines fois critiqué, hein, ça fait bien longtemps maintenant, mais je trouve que c'est parfait de faire un peu tourner. Mais même si, encore une fois, un joueur comme Payet, c'est un joueur qui peut être largement titulaire. Un joueur comme Under, il est titulaire, même s'il a été plutôt aligné sur le couloir droit. Mais honnêtement, non, elle a fière allure cette équipe. Pour une équipe qui où on fait entre guillemets tourner avant le gros match de mercredi face au Paris Saint-Germain, je trouve que l'équilibre est plutôt bon.
Et d'ailleurs, petit rappel, un mercredi 21h10, je crois précisément, l'huitième de finale de Coupe de France OM-PSG, ce sera sur RMC en intégralité. L'after dans la foulée jusqu'à minuit et demi, et dans la foulée jusqu'à 1h30. L'after, la libre antenne qui est de retour, votre émission de la Coupe du Monde qui sera là, donc on vous attendra avec Nico Villas jusqu'à 1h30 du matin. C'est vous qui faites cette émission, vous le savez, au 32-16. Dans un instant, la compo niçoise. Tiens, juste Jeannot et Flo, là, rapidement, les conditions de jeu, de commentaires ce soir, n'hésitez pas, là, j'ai vu pas mal de photos. On est comment au début février?
Ça va. J'ai cru qu'il allait y avoir un petit peu de Mistral, parce qu'on nous avait parlé de bise, mais finalement, non, ça va, c'est correct.
C'est une pelouse correct. Qui a été.
Il devrait faire plus froid mercredi soir, normalement.
Et une pelouse critiquée par Jeannot Rességuier lors de OM Monaco. Oui. Et quand Jeannot prend la parole sur la pelouse, tout de suite, c'est séance d'UV.
Oh là là.
Et donc,
luminothérapie
cette semaine qu'on a constaté de nos propres yeux
pour la pelouse ou pour Jeannot?
Non, mais Jeannot aussi. Et d'ailleurs il a un teint d'un poids, c'est vraiment du grand Jeannot.
Allez, on vous retrouve dans un instant, Jeannot Rességuier, Florent Germain, en direct du Vélodrome. La compo niçoise, supporter niçois, on vous attend, appelez-nous le 32-16. La première de Mofi, l'effet Didier Digard, on en parle tout de suite avec vous sur RMC. Et Kevin Diaz, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Et oui, Marseille-Nice, et dans 20 minutes, ce sera sur RMC avec Kevin Diaz. L'After est là en direct jusqu'à minuit avec Jeannot Rességuier, Florent Germain en direct du Vélodrome pour vous faire vivre cette rencontre. Dans un instant, supporter niçois, je vous attends au 32-16 pour débriefer cette compo de Didier Digard. Terem Mofi notamment est titulaire. Je vous rappelle, ce soir, c'est une grosse soirée de foot parce que, outre cette affiche de Ligue 1, à l'étranger, on a le derby milanais, 20h45, Inter AC Milan, avec du vice-champion du monde sur la pelouse. Sachez que Théo Hernandez et Olivier Giroud sont titulaires. Et côté Inter, Skriniar également est titulaire. Et puis on suivra également à 21h Barcelone-Séville, le Barça qui peut se rapprocher un peu plus du titre en Liga. Là aussi, il y a du français. Non, pas du tout. Aussi, Jules Koundé, là. Jules Koundé arrière droit. Dembélé. Et blessé, tout à fait. Merci Jeannot. Lésion musculaire. 20h25, dans un instant, on va rappeler la compo niçoise, s'il vous plaît, messieurs. J'ai Sébastien qui est là au 32-16 juste après.
Schmeichel dans les buts, avec une défense à 3. Donc avec Ndaye Chimié, Todibo et Tante. Lotomba à droite, Barre à gauche, milieu de terrain, Ramsey avec Thuram et Diop derrière les deux attaquants, Mofi et Laborde. C'est comme ça qu'on nous présente la compo d'équipe. Est-ce qu'il va revenir à 4 en mettant Ndaye Chimié au milieu de terrain, parce que c'est un poste qu'il a déjà occupé, le Burkinabé, à Bachak-Sehir. Bon, peut-être on verra, mais en tout cas voilà comment Didier Degas organise son équipe. Elle a quand même fière allure et elle est assez offensive.
Il va falloir le bosser, non, hein, ce nouveau défenseur niçois, mon jeune homme.
Ndaye Chimié.
Ah oui, bien. Il faut juste s'échauffer, quoi.
C'est tout. Ouais.
Je crois qu'on a le feu vert pour l'appeler Youssouf.
C'est vrai?
Oui, je me suis renseigné et on peut l'appeler Youssouf sans aucun problème.
Ah, parce que moi j'ai carrément demandé à Maxime Tillette en me disant, bon, tu me l'expliques comment là, phonétiquement, le garçon, et voilà. Donc On peut l'appeler Youssouf.
Tu te rappelles de mon conseil sur le troisième gardien de l'OM?
Voilà. Genou. On l'appelle Simon.
On l'appelle Simon. Voilà.
Simon, Simon comment
c'est... Ah non, non, non. on ne s'y risque plus depuis des années.
C'est terminé.
J'ai Jérôme
il y en a
Thomas.
Qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Ouais, bah, il me l'a dit dans le casque, mais Jérôme, bravo, je le tenterai pas. Ouais, non, il me le renie une deuxième fois, je le dirai pas. 20h26, on a avec Sébastien.
On va l'appeler Youssouf.
Ok.
Ah non, mais ça passe, ça passe.
Supporter niçois. Salut Sébastien.
Et bonjour tout le monde.
Comment
mais
ça va?
Je confirme, on peut l'appeler Youssouf parce que nous aussi Sébastien. On a essayé, on a eu des problèmes.
Merci, ouais, mais Youssouf qui, Sébastien?
Messi.
Bon, Sébastien, un supporter niçois qui va mieux depuis ce mois de janvier. Comment t'expliques là, l'effet Digard? Est-ce qu'on peut résumer ça tout simplement en fait que les joueurs avaient lâché Favre et que là ils jouent enfin à leur vrai niveau?
Oui, je pense que ça a libéré les joueurs parce que ça passait plus trop avec Lucien Favre qui a des méthodes qui je pense correspondaient pas à la nouvelle génération. On va dire ça a été un super coach, c'est possiblement encore un super coach, mais ça collait plus avec les joueurs. Et jusqu'à présent, je m'étais dit que les joueurs justement surfaient sur le fait que ça soit Didier Digard, mais on pouvait mettre n'importe qui d'autre, ça aurait fait la même chose. Mais son coup de tactique à Lens prouve qu'il a bien d'autres choses dans sa palette de coach et pourquoi pas. Moi, je crois qu'il peut devenir le futur coach de l'OGC Nice même la saison prochaine.
Wow. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas d'infos hein, et il ne court pas après les garanties. Il est là. On a parlé au départ d'un intérim. On ne parle de plus rien pour l'instant puisque tout va bien. Hein. 4 matchs, aucune défaite. 3 victoires et un nul du côté de Reims avec un seul but encaissé. Ça, c'est quand même le point positif. N'oublions pas quand même qu'il avait intégré le staff de Lucien Favre pendant la trêve de la Coupe du Monde pour rapprocher les joueurs avec le coach. Donc, il y avait quand même une tentative de la part des dirigeants d'essayer d'éviter de montrer qu'il s'était trompé en rappelant Lucien Favre. En tout cas, ça c'est moi qui le dis, et qui s'est occupé de la réserve de National 3. Donc c'est quelqu'un qui connaît quand même pas mal les joueurs de Nice et qui aujourd'hui amène quelque chose de frais. J'ai entendu parler de cela de la part de Todibo qui a beaucoup apprécié le fait qu'il ait intégré le staff de Lucien Favre. Donc c'est une autre façon de travailler. Tu as raison Sébastien quand tu le dis. Peut-être que Lucien Favre c'était une autre époque, ou peut-être aussi encore une fois que les dirigeants s'étaient trompés en le rappelant.
Kevin, est-ce que tu penses comme Sébastien que finalement Digard, là on commence à avoir un peu de recul et il y a peut-être un peu plus qu'un simple coup, l'effet psychologique, le match contre Lens?
Moi je pense même plus que ça, hein. ça fait quelques mois, même quelques années depuis que je suis sur RMC que je dis qu'il y a beaucoup de très bons entraîneurs en France. En fait, il suffit juste de leur laisser la chance. Didier Digard, il a fait du bon travail avec la réserve de Nice. À partir de là, je vois pas pourquoi ce serait pas un entraîneur qui serait qualifié.
Il a pas le diplôme non plus, ne l'oublie pas, le BEPF. Hein, il l'a pas. Il y a Julien Sablé qui l'a. Ça, c'est un handicap hein, aussi. Ce qu'on est, regarde à Strasbourg, ça en est un. Il faut en tenir compte.
Après, avoir ou pas le diplôme, ça, c'est autre chose. Mais la compétence du gars. Moi, je
la
vois
compétence
pas
c'est une chose, le voilà. Règlement c'est une autre.
Oui, non, mais le règlement il va de toute façon il va être obligé de suivre les résultats de l'entraîneur sûr. puisque à partir du moment où tu as un entraîneur qui est en place en Ligue 1, on sait très bien que ça peut aller beaucoup plus vite pour avoir le diplôme. Je sais bien puisque je passe le diplôme qu'il a passé l'année dernière. Donc après il a aujourd'hui une équipe à la charge, il fait des bonnes choses, il a de bons résultats, il a son groupe qui a l'air de répondre positivement et donc moi je me fais aucun souci pour ça. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'il trouve une solution pour avoir le diplôme ou en tout cas pour rentrer en formation pour le BEPF assez rapidement. Mais moi, j'aime bien voir des jeunes entraîneurs comme ça. C'est un peu à l'image de ce qui se passe pour un jeune joueur. Quand tu es un jeune entraîneur, il faut saisir ta chance lorsqu'elle se présente. On l'a vu avec le Scorner, on l'a vu avec Didier Digard ou avec d'autres, avec Francaise à l'époque. Il a eu aussi un peu de réussite avec le Covid, mais il en faut aussi pour un entraîneur.
20h30, dans un quart d'heure, le coup d'envoi de ce Marseille-Nice, la fin de la 22e journée de Ligue 1 en direct sur RMC avec Kevin Diaz, avec Jeannot Essayguet, Florent Germain au Vélodrome. On continue avec Sébastien au 32-16 de débriefer. On va commencer à débriefer cette compo niçoise, la compo de Digard. Sébastien, est-ce que tu l'analyses comme Jeannot offensive ce soir avec ce trio
ambitieuse.
Diop, Laborde, Mofi, ambitieuse pour être précis, Sébastien?
Ouais, je pense qu'elle est ambitieuse. À voir si ça va s'articuler. Je pense que ça risque de s'articuler avec Diop en numéro 10 pour le duo Laborde-Mofi devant. Je pense qu'on va rester effectivement à 3 défenseurs et 2 latéraux pour essayer de bloquer les deux joueurs marseillais, Tavares et Klos. Hein. Donc je pense que là, ça va être important aussi de les bloquer. Mais effectivement, c'est ambitieux. De toute façon, on a redressé la barre, on n'a pas grand-chose à perdre. Je pense qu'on va ouvrir le jeu et qu'on va assister à un super match.
Moi, je ne suis pas sûr qu'ils vont vraiment ouvrir le jeu, comme tu dis, parce que là où vous pouvez être en difficulté, vous le savez à Nice mieux que nous depuis des années maintenant, c'est dans les couloirs. Et comme tu viens de le dire, je pense que Melvin Barre et Lotomba peuvent avoir des difficultés face à Klos et Tavares. Il va surtout falloir survivre au premier quart d'heure, aux 20 premières minutes où Marseille met énormément d'intensité. Et c'est ce qu'avait parfaitement fait d'ailleurs votre voisin de l'AS Monaco, qui avait réussi vraiment à ressortir les ballons avec un Ben Seguir, avec un Golovin notamment, qui avait une qualité technique exceptionnelle même dos au jeu pour arriver à casser le pressing marseillais.
Sébastien, qu'est-ce que t'attends de Terem Moffi? Première titularisation ce soir, est-ce que c'est lui qui doit être la pièce pour relancer le projet Ineos qui a pris cher là en première partie de saison?
Ben, on attend qu'il plante direct ce soir, hein, tant qu'à faire. En plus, bon, on l'a pas piqué au Marseillais, mais un peu quand même. Ouais. C'est une petite fierté pour nous, hein. Pour les Marseillais, c'est pas grand-chose, mais pour nous, on est contents. Ensuite, on a investi, je pense qu'on a surpayé le joueur, mais quand on se dit ambitieux, c'est pas anormal de surpayer un joueur. Il connaît la Ligue 1. Il y a deux ans, je crois qu'il a mis 18 buts déjà en Ligue 1. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Cette année, il en est déjà à 12 buts. C'est un attaquant qui va super vite. Quand je me suis bien renseigné sur lui, je pensais pas que c'était un joueur qui était aussi rapide que ça. Donc ça fait des mois et des mois que Lucien Favre demandait un attaquant de profondeur. Bon, il est parti et l'attaquant de profondeur est arrivé. Mais on attend énormément de lui, oui, effectivement.
Il est déjà à 12 buts cette saison, 22 millions.
34 buts en Ligue 1 à 22 ans, c'est pas mal quand même.
Hein, oui.
En jouant à Lorient. Mmh. Et du coup, c'est pas une équipe de haut de classement, quoi.
Surpayé ou pas? Ouais. Surpayé ou, comme dit Jeannot, Kevin, c'est des bonnes stats pour un joueur qui était à Lorient?
C'est toujours pareil, oui, bien sûr, un peu surpayé, mais du coup, l'OM a dû surpayer un peu Vitinha aussi derrière.
Pour le coup, on connaît moins Vitinha que Moffi. Vous êtes d'accord, mais il y a plus de garanties de notre côté.
Tu peux traverser la frontière portugaise, je peux dire qu'ils n'ont absolument jamais entendu parler de Moffi et qu'ils connaîtront Vitinha. Donc, forcément, il est dans notre championnat depuis 3 ans. On le connaît mieux que Vitinha. Mais après, moi, c'est un attaquant que j'apprécie, qui est puissant, qui doit encore un peu travailler des fois dans sa finition, mais qui va être un, je vais pas dire un maillon fort, mais en tout cas une pièce intéressante pour Didier Digard et les Niçois à n'en pas douter.
Bon, raconte-nous Flo, il y a eu vraie histoire, hein, Moffi et l'OM pour le coup. On parlait tout à l'heure de Klos et de l'Atletico, là ça a été beaucoup plus loin.
Oui, ça allait beaucoup plus loin. Après, honnêtement, moi il me manque un élément, c'est de comprendre comment on peut être sur Moffi à 100% pour derrière rebondir vers un Vitinha et mettre le paquet sur un joueur qui est présenté après par les dirigeants marseillais comme quelqu'un qu'il suivait oui, depuis quasiment 6 mois.
Moffi était donc un leurre.
Donc non, je vais le dire autrement, je pense que Pablo Longoria n'est pas mécontent que l'OGC Nice ait casqué 5-6-7 millions de plus grâce au coup de pression de l'OM. Dire que c'était une fausse piste, je ne pense pas.
Disons que
mais Pablo Longoria en serait capable.
Est-ce que c'était pas une piste un peu plus cheap? Clairement,
mais
dans les faits.
Mais
moins cher.
Enfin, vous savez, après, quand Pablo Longoria va à Lorient, on l'appelle. Quand il revient, on l'appelle. Des fois, il y a des textos. Et dans la manière de sentir les choses, pour moi, tout n'est pas clair. Donc, je ne vais pas vous inventer une histoire. Mais j'ai quand même le sentiment que rapidement, l'OM a dit c'est pas grave, on ne fait pas Moffi. On ne va pas faire signer Terem Moffi pour
Moffi
le dire autrement.
Qui a dit à Marseille, c'est pas grave, je n'irai pas à l'OM.
Exactement. Mais je pense que tu ne peux pas le découvrir comme ça.
Tu veux dire qu'ils ont tenté un coup comme ça à la dernière minute en sachant que Moffi était déjà d'accord avec Nice. On dit bon, on va tenter le coup.
Pour résumer,
Nice le paiera un peu plus cher.
Exactement.
Et, voilà. Et derrière, on va faire peur à celui qui voulait nous vendre Vitinha en disant bon, il va falloir le lâcher parce que sinon on va aller voir quelqu'un d'autre.
En gros, on pourrait inviter Pablo Longoria dans l'émission de Daniel Riolo sur le poker parce que je pense qu'il avait calculé plusieurs coups et il savait que quoi qu'il arrive, ça allait être positif. Ou tu avais Terem Moffi, qui est un joueur qui plaît, ou Nice allait devoir rallonger et mettre 5-6 millions de plus. Donc au final, je pense que ça a été calculé quand même par les Marseillais. À mon avis.
Le RMC Poker Show à minuit ce soir après l'after avec Daniel Riolo comme tous les dimanches soirs, bien sûr, de minuit à 1h. Sébastien, le mot de la fin pour conclure, victoire au Vélodrome ce soir?
On espère. Moi je vois plus un 2 partout. Je sais pas pourquoi je vois un 2 partout, mais bon, on espère une victoire effectivement.
Et tu vois du spectacle, c'était pas gagné avec Fèvre avant.
Non, ça c'était pas gagné. Mais bon, ça m'embête de dire du mal de lui parce qu'on a tellement rêvé sous ses ordres avant qu'il revienne. Comme quoi, j'ai jamais été fan d'un retour que ce soit un joueur ou un coach, ça s'est confirmé malheureusement.
Merci Sébastien de nous avoir appelé ce soir. Tu passes un bon match et tu reviens quand tu veux dans l'after. Salut Sébastien.
Au revoir.
Bye bye. 20h36. Dans moins de 10 minutes, le coup d'envoi de ce Marseille-Nice. Dernier match de la 22e journée de Ligue 1. L'OM 2e, Nice 9e. Je vous rappelle les résultats. Hein. Lens tenu en échec à Brest. Les Lensois qui ont même égalisé en fin de match. Ils étaient menés 1-0, 1 partout. Du coup, au classement, là, avant le coup d'envoi ce soir, l'OM est 2e à 8 points du Paris Saint-Germain et a le même nombre de points que Lens. Donc Marseille peut mettre Lens à 3 points ce soir et l'AS Monaco à 5 points. Alors que Nice est 9e et peut repasser devant Lyon en cas de victoire. Nice 31 points, Lyon 32. Il est 20h36, on parie tout de suite sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Guier, notre expert en paris sportif. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à tous.
Il y a des cotes qu'on a hâte d'avoir quand même, là, notamment sur certains joueurs buteurs, etc. Ça peut être facile de mettre une cote sur Vitinha buteur notamment.
Ça peut se tenter quand même à 20 ans qu'il est titulaire. En tout cas, les cotes
Bookmaker, tu vois. Comment tu lui mets chance de marquer?
Ah bah là, je vais te donner ça tout de suite. D'abord, je te passe les cotes sèches. 1,68 seulement la victoire de Marseille qui reste largement favori à domicile. 3,85 le nul. 5,20 le succès des Aiglons, c'est assez énorme. Moi justement, il y a une cote qui me plaît bien dans un my match. Les deux équipes qui marquent sans donner de vainqueur avec soit Mofi, soit Vitinha buteur. Donc un but d'une des deux recrues de chaque équipe. C'est 2,70.
Et ça paraît pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais jouer la victoire de l'OM avec le but de Vitinha.
Marseille qui gagne avec un but de Vitinha, c'est coté à 3,30. C'est pas mal du tout. Et si je vous donne juste Vitinha buteur, il est à 2,80. C'est plutôt pas mal.
Ok. Et Mofi buteur tout seul.
Mofi buteur tout seul, je te le donne tout de suite. Je choisis un buteur, je vais sur Mofi. Et il est à 3,85. C'est assez énorme.
Ok. Merci beaucoup Yo. Tous les paris de la Dream Team à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
J'allais dire, on est sur l'annonce des équipes. J'entendais le speaker, mais c'est fini. Jeannot et Flo, là.
Ça vient juste de terminer. On est passé en remplaçant.
Ah, d'accord. Je voulais entendre un peu ça a donné quoi, là, sur les nouveaux noms, notamment.
Une belle acclamation. Mais il y avait déjà eu une présentation juste avant, à la fin de l'échauffement, pour les deux recrues, donc Asdin Unai et donc Vitinha. Et
on a même vu un drapeau portugais.
Ouais, un drapeau portugais en bas du virage sud, brandi par les ultras. Et là, tout dort. Et tout dort de plus en plus, ça monte.
Faut dire que ça partait très bas quand même.
Ça partait dans l'aigu. Ça partait dans les sifflets, effectivement.
Et Mofi, il y a eu un accueil particulier au moment
Non, il y a eu quelques
ici
sifflets.
Ici à Marseille, les visiteurs, on les présente très succinctement.
Ouais.
Hein,
Ok Jeannot, Flo, on vous retrouve dans un instant puisque c'est la dernière pause rapide et puis ça va démarrer dans l'After Live sur RMC, ce Marseille-Nice, le dernier match de la 22e journée de Ligue 1 avec Kevin Diaz, avec vous tous sur le Direct Studio pour commenter cette rencontre. N'hésitez pas, je vous lis sur les applis RMC, RMC Sport, sur Twitter également, le hashtag RMC Live. Coup d'envoi dans un instant sur RMC.
RMC, l'After Live.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et on y est, 20h40, nous sommes dimanche soir, le 5 février, l'affiche du week-end de cette 22e journée de Ligue 1. Marseille, Nice, l'entrée des équipes au stade Vélodrome sous les yeux et les cordes vocales de Jeannot Rességuier, Florent Germain.
Grosse ambiance au Vélodrome avec des tifos notamment dans le virage sud. Il y avait un fond bleu et jaune aux couleurs de la Provence et cette banderole en provençal justement. Marseille, capitale du midi. Oui, c'est un petit clin d'œil, un petit chambrage aux Niçois. On se veut eh bien derby du sud quand on va à Marseille-Nice et on veut une suprématie ici sur la côte. Et donc c'est une ambiance très très chaude, on le disait. La troisième plus belle affluence de l'histoire de l'OM, 65 200 supporters et tout le monde est là, tout le monde est en place et les joueurs également qui se tapent dans la main.
Ça nous annonce une belle soirée, mais bon, c'est vrai que en ce moment au Stade Vélodrome, on est plutôt servi, que ce soit au niveau de l'ambiance, que ce soit au niveau des typhos et que ce soit surtout au niveau du terrain, au niveau de la qualité, tant avec l'Olympique de Marseille qu'avec l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Et ça va toi, Jeannot, par rapport à hier, tu t'es mouillé la nuque, non, par rapport à
Je ne fais pas de comparaison, moi. Jamais, jamais. Je reste très, très terre à terre.
Jeannot était où hier? Je me souviens plus.
J'étais PSG Toulouse et je me suis régalé. J'ai vu un très bon Toulouse, tu vois.
Parce que j'étais dans ma voiture pour tout vous raconter hier et j'ai failli lui envoyer un petit texto, puisque 10 minutes avant le coup d'envoi, je crois que tu avais une petite phrase avec à l'antenne en disant que ça montait doucement, qu'il n'y avait pas une grosse ambiance.
Le stade n'était pas plein.
J'avais envie de te dire, bouge-toi la nuque parce que demain ce sera bouillant et c'est bouillant. Ah oui, on peut chambrer un petit peu.
Ah mais ça, il n'y a pas de souci.
Flo Germain, il nous lance le match 3 jours avant, quoi. Mais c'est incroyable.
Il n'y a pas de problème. Allez, Payet est là. Le capitaine.
Qui chambrage entre les deux d'ailleurs. Les deux capitaines de Marseille et de Nice avec Clément Turpin, donc l'arbitre de la rencontre. Et un match dont on attend beaucoup, et surtout au niveau de l'entame de match, parce qu'on l'a dit avec la compo d'équipe, où on a le sentiment que Igor Tudor a le besoin de maintenir tout son groupe sous pression. On fait tourner son effectif, la première de Vitinha, mais aussi du côté de Nice avec Didier Degard, qui n'a pas connu encore la défaite en tant qu'entraîneur, qui a vraiment l'ambition d'avoir une équipe offensive.
Et on te redonne la compo, donc Thibaut, Paul Lopez du côté de l'OM dans le but, évidemment les trois axiaux, Gigot entouré de Chancel Mbemba et de Léo Balerdi, sur les côtés à droite Jonathan Clauss, à gauche Nuno Tavares, milieu de terrain Jordan Veretout, et sur le banc c'est Rongier qui est aux côtés de Matteo Guendouzi, et très offensif avec Payet, avec Cengiz Under et avec Vitinha titulaire.
Et avant l'hommage à Charlie Loubet dans quelques instants, décédé ces derniers jours, Schmeichel dans les buts pour les Niçois, Dante, Todibo, Youssouf pour la défense, Bar à gauche, Lotomba à droite, Ramsey, Thuram au milieu de terrain avec Diop, Labo et Mofi. La minute d'applaudissement à la mémoire de Charlie Loubet, un personnage du football niçois.
Il est 20h44, vous êtes sur RMC, l'After Live. On va vivre ce match en intégralité ensemble ici avec Kevin Diaz. On a des gros matchs à l'étranger également. Je vous donnerai l'évolution du score du derby milanais, l'Inter face à l'AC Milan, des vice-champions du monde titulaires. Giroud et Théo Hernandez sont là, et puis en Espagne à 21h Barcelone, Séville, Koundé. Et là, on aura également du rugby à partir de 21h05, Stade Français, UBB. On suivra avec Julien Richard le Stade Vélodrome, Jeannot Rességuier, Florent Germain. C'est parti pour ce Marseille-Nice.
Et avec le maillot frappé du 11 de Charlie Loubet, le capitaine Dante, qui était dans le rond central avec les joueurs marseillais pour cette minute d'applaudissement. Les caméras fixées sur le coach de Nice, Didier Digard, avec la tape amicale avec Dimitri Payet, avec le coach Tudor. Vitinha énormément concentré, on l'a vu sur son visage, pour cette première sous le maillot de l'Olympique de Marseille, le joueur le plus cher de l'histoire du recrutement marseillais, Dimitri Payet et Vitinha à côté du ballon. Le coup d'envoi est imminent, c'est parti. Coup de sifflet de Clément Turpin avec un premier ballon pour Rongier et Bemba sur le côté droit. Rapidement, Under, on revient dans la moitié de terrain des Marseillais avec Bemba pour un premier ballon pour Paul Lopez, tous deux jaunes vêtus, alors que Schmeichel lui sera tous deux verts vêtus. Bemba qui récupère le ballon avec la récupération de balle, le décalage est fait, et la possibilité de voir Under partir dans le dos des défenseurs, et notamment de Melvin Barr. Klaus lui proposait le choix de continuer dans le couloir droit. Il est revenu à gauche avec Tavares pour qui remise à Guendouzi. À Guendouzi pour Tavares, encore à l'entrée de la surface de réparation, aux prises avec Lotomba qui choisit de revenir dans l'espace avec Payet. C'est premier corner pour l'Olympique de Marseille après à peine 36 secondes de jeu.
Ouais, ils partent assez fort les Marseillais. C'était le reproche et le constat du staff d'Igor Tudor contre Monaco, c'était évident, et contre Nantes aussi. Les débuts de match n'avaient pas été tonitruants du côté des Marseillais. Là, ça part plus vite.
Le corner en deux temps avec Dimitri Payet pour Under, qui revient dans l'axe encore avec Rongier. On renverse pour Klaus. Klaus qui va tenter de déborder, qui va être pris sur le côté. Ballon centré finalement dégagé par Melvin Barr. Ça revient dans les pieds des Marseillais avec Rongier encore. On va insister sur le côté droit pour Klaus. Balerdi qui maintenant récupère cette balle en décalage avec Guendouzi, puisque Gigot était monté ainsi que Benba sur le corner de Dimitri Payet. Le ballon de Klaus, il a voulu jouer rapidement sur Under, ballon dégagé directement en touche par Dante. Gros coup de pression, pression sur la défense niçoise.
Là, on s'y attendait forcément à ce que les Marseillais mettent énormément de pression dans le premier quart d'heure, parce que c'est là où ils sont le meilleur, c'est quand ils arrivent comme ça à acculer leur adversaire.
Allez, ballon pour les Marseillais, récupération de balle avec Balerdi. Gigot qui est dans le rond central, qui s'appuie sur Guendouzi, que l'on voit un petit peu reculer, venir chercher des ballons très très haut. Et Igor Tudor sur le bord de la touche, qui fait signe à ses joueurs d'avancer, avec Dimitri Payet qui a choisi de doubler avec Tavares, mais le ballon s'est récupéré par Lotomba pour les Niçois, avec Todibo en difficulté dans la première relance, dans la récupération du ballon avec Ramsey. Ça revient dans les pieds des Marseillais, avec encore Balerdi. Tavares sur le côté, la passe est imprécise, ça va aller directement en touche, le ballon n'a pas pu être capté par Dimitri Payet.
Et on a vu déjà un pressing de Vitinha, ce sera l'un des aspects de son jeu, l'une de ses qualités aussi. Tu le disais Kevin dans l'avant-match, que pour l'avoir suivi au Portugal, c'est pas uniquement un buteur, c'est un joueur qui presse énormément, qui donne beaucoup, et c'est ce que recherchaient les dirigeants de l'OM. Et Vitinha, on l'a vu une ou deux fois faire le pressing pour gêner les relances de balle des Niçois.
La touche avec Tavares pour ce ballon qui est difficile à contrôler face à la board. Ballon récupéré par Ramsey au milieu du terrain. Il tente de passer en débordement face à Balerdi. Il n'a pas de faute. D'abord qui récupère la balle avec Moffi qui réclame le ballon dans l'espace. Moffi qui va se retrouver dans la surface de réparation vers Bemba. Le ballon est en retrait pour Thuram tout seul. La frappe de Thuram. Oh, quelle occasion pour les Niçois. Première remontée de balle avec la board sur le côté. Thérèse Moffi qui avait eu l'appel de Diop au premier poteau, mais qui choisit de la mettre en retrait pour Thuram, qui ne cadre pas. Quel dommage pour les Niçois, quelle alerte pour les Marseillais.
Écoute, on est sur un début de match, Kevin, où c'est un peu comme Monaco, ça va d'un camp à l'autre. Et là, Kevin Thuram, il mange comme quelque chose d'énorme.
Hein. Ah, il doit mieux faire, parce que il fait un geste, je ne sais pas si vous avez vu le ralenti, le ballon contourne le Marseillais, mais contourne aussi le but.
Ouais,
franchement, si elle est dedans, comme on dit à l'ancienne, c'est pareil. Et je suis désolé. Flo, j'étais en train de me dire, bon, dans ce match, essaye de regarder Balerdi avec un œil nouveau, sans vouloir. Mais je suis désolé, Flo. Il peut pas perdre ce duel comme ça, là, devant Ramsey. C'est pas possible. C'est un jeune joueur. Il n'a pas d'explosivité. Il n'a pas de vitesse dans les duels.
Et sur la première relance des Marseillais, j'attendais ça pour voir le positionnement. On a Thuram et Ramsey qui montent très très haut, la board qui lui est entre les deux, légèrement reculé. Diop est dans le couloir gauche et Moffi sur le côté droit. Et quand on a le ballon à droite, on l'a vu en tout cas avec cette première grosse occasion, la board et Moffi sont presque dans le même couloir, et c'est Diop à ce moment-là qui se positionne dans l'axe. Donc il y aura beaucoup de permutations dans le secteur offensif du gym ce soir.
Et on voit Vitinha encore, hein, beaucoup pressé. Et d'ailleurs, Chancel Mbemba aussi, je me demandais pourquoi il était si haut. Mais il y a souvent un défenseur de l'OM qui vient dézoner. Et quand c'est Mbemba sur la pelouse, aux côtés de Gigot ou Balerdi par exemple, bah, c'est souvent lui qui s'y colle, parce qu'il a ce profil. Et d'ailleurs, il racontait lors d'une interview se faire un peu chambrer parfois à l'entraînement. Et Igor Tudor l'appelle Cafou, tellement il a tendance à être offensif.
Une heure qui va mettre le ballon sur Klaus sur le côté droit, le centre est approximatif. C'était pour Vitinha, mais ce sera capté par Schmeichel. 5 minutes de jeu au Vélodrome, 0-0. Et la grosse occasion, elle est pour les Niçois, avec la frappe à côté de Thuram sur cette belle remontée de balle de la board et de Moffi. Mauvais dégagement de Schmeichel. Ballon récupéré par les Marseillais avec Gigot, avec maintenant Tavares. Guendouzi qui est pris immédiatement par Moffi. On revient dans la moitié de terrain des Marseillais avec Balerdi et avec Gigot. Autant on a vu 3-4 minutes marseillaises. Là, ça fait un petit moment qu'ils ont du mal à franchir la ligne.
Il est 20h50, vous êtes sur RMC, c'est l'After Live avec Kevin Diaz, la 22e journée de Ligue 1. L'affiche entre Marseille et Nice, les titularisations de Vitinha d'un côté, de Moffi de l'autre. On est au Vélodrome avec Jeannouret Séguier, Florent Germain.
Ouais, et avec Igor Tudor qui a le bonnet vissé sur la tête, avec le ballon récupéré par les Marseillais. Vitinha avec une heure pour remiser peut-être. Non, finalement il choisit de la mettre derrière avec Klaus qui va la lui redonner sur le couloir droit, qui redonne à Klaus encore. Une heure pour Klaus et le ballon est maîtrisé par la défense niçoise. Maîtrisé en tout cas, contrôlé. Mais derrière, il n'y a pas de solution. Et Todibo est obligé de la mettre directement en touche.
Et le pressing tout de suite de Vitinha qui permet à l'OM de gagner la touche.
Et Bamba qui récupère le ballon contré par Diop. Ce sera une touche pour les Marseillais. À moins que, non, ça n'a pas été retouché. Donc une touche pour l'OM avec Klos pour Rongier. Rongier qui conserve ce ballon, pris par trois joueurs niçois. Revient derrière à la hauteur de la ligne médiane pour trouver Gigot. Voilà, encore une fois, c'est Guendouzi qui décroche, qui vient chercher le ballon presque à la hauteur de Gigot, entre Gigot et Balerdi. C'est lui qui vient encore chercher ses ballons de remiser par Vitinha, le jeu en piston. On écarte maintenant à droite avec Gigot face à Diop qui va décaler sur le côté droit à Klos, pris par Melvin Barr. Ce sera une touche pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, on voit Tavares appeler énormément le ballon parce qu'il a l'habitude d'être servi. Là, ça fait 2-3 minutes que eh bien, on passe plus sur le côté droit et je pense que ça va être le cas. Justement, ils vont faire tourner, mais Tavares était impatient de récupérer le ballon. On passe plus par Under et par Klos pour le moment.
Avec Guendouzi avec une touche de balle.
Ouh, l'attaque de Payet.
Attention Payet. Attention Dimitri Payet pour cette faute un petit peu stupide, on va dire, sur Youssouf.
Il est en retard en fait. Hein. Il est vraiment en retard dans son tacle et derrière.
Il y avait un petit carton, non ?
C'était voilà, sur Todibo.
Sur Todibo, ouais. Ouais. Ça peut mériter un carton jaune. Et honnêtement, je pense que s'il prend pas le carton jaune, c'est parce qu'on joue la 7ème minute. Et Clément Turpin, il dit allez, la ça va être avertissement verbal. Oui. Mais tu fais cette faute-là à la 53ème, c'est carton jaune quasiment assuré.
Schmeichel pour les Niçois qui va donc jouer ce coup franc qui est juste devant sa surface de réparation, décalé à droite, long ballon. Oh, mauvais dégagement encore de la part de Schmeichel. Hein, tout à l'heure, c'était un dégagement de gardien lointain, mais qui finalement atterrit dans le rond central et rendu au Marseillais. Là, il a un petit peu dévissé, il a même surpris Hunder qui se demandait bien pour quelle raison le ballon arrivait aussi vite sur lui. 8 minutes de jeu, toujours 0-0. Et Todibo pour Schmeichel avec Vitinha qui va mettre la pression. Le ballon est dégagé, la récupération de balle de la part des Marseillais, c'est bien fait. Avec Balerdi, maintenant Dimitri Payet qui va décaler le ballon à droite. Melvin Barré est battu. Ça fait la différence. Le Vélodrome qui se lève. Klos qui va centrer. Au point de pénalty, Vitinha contrôle. Il veut enchaîner avec la frappe. Et le bon retour de Melvin Barré. Heureusement pour la défense niçoise.
Il doit laisser passer, non, entre les jambes.
Ouais, il a trop faim en fait. Il a trop faim. Il avait envie de la prendre. C'est vrai qu'il y a cette possibilité de faire le contrôle. Mais de Vitinha à Mofi, c'est un match entre les deux recrues qui.
Oh, le bon centre. Oh, le bon centre encore de la part de Mofi. La borde qui retournait acrobatique pour la passer sur Diop. Diop qui manque la demi-volée. Qui passe au-dessus du but de Paulo Lopez. Ça va d'un camp à l'autre. Et là, on a effectivement, comme allait le dire Flo avant cette occasion niçoise, de l'envie chez Vitinha. Et de l'envie aussi, ouais, chez Mofi.
Un match dans le match un petit peu. C'est vrai qu'il peut la laisser passer sur l'occasion marseillaise, Kevin, mais bon, il tente le coup et la superbe talonnade de Hunder.
On ne peut pas lui en vouloir de tenter le coup, mais je pense en effet qu'il aurait dû laisser passer parce qu'il n'avait pas beaucoup d'angle de toute façon.
Mais il faut saluer aussi le bon retour de Melvin Barr parce qu'il se fait enrhumer par Klos. Si Balerdi s'était fait enrhumer comme ça, je pense que Kevin, tu l'aurais signalé. Et il a derrière la lucidité de faire le bon geste. Balerdi.
Attention à la perte de balle avec des Niçois qui sont passés à 4 derrière. Youssouf est monté d'un cran au milieu de terrain depuis 2-3 minutes là. Avec, on a vu une gestuelle de la part de Digard. Il est beaucoup plus avancé que Todibo et Dante. Et c'est lui qui a perdu le ballon dans l'espace maintenant avec Thuram qui récupère la balle de la part de Diop. Barr sur le côté gauche à l'entrée de la surface de réparation. Le décalage avec Ramsey qui va lui redonner le ballon, le centre au premier poteau pour aller chercher Mofi. Le ballon est dégagé par Gigot. Ça revient dans les pieds des Niçois avec encore Thuram qui va centrer. Ballon dégagé une deuxième fois par Gigot et s'est récupéré par les défenseurs niçois, mais dans la moitié de terrain des Marseillais. Lotomba maintenant qui reçoit ce ballon de la part de Todibo. Youssouf qui récupère la balle lui au milieu de terrain. Youssouf Onlani, on a le droit, c'est Ndaye Chimiye, la recrue burkinabé de cette formation niçoise qui a débuté le match en défense avec Todibo et avec Dante et qui maintenant est monté d'un cran au milieu de terrain.
Gros rythme, hein, messieurs, vraiment depuis le début de rencontre. Alors c'est pas une nouveauté, hein, parce que au Vélodrome,
on est un peu habitué à ça.
On est habitué. Parfois, voilà, c'est au risque et péril de l'OM. Hein. On l'a vu avec Monaco qui avait fait une très belle première période et qui aurait pu mener 2 à 3-0 sans problème à la mi-temps. Là, les Niçois ont eu la grosse occasion, mais voilà, c'est un risque assumé. Et là, les Marseillais ont le ballon.
Avec Payet, Tavares dans l'axe. Maintenant, Hunder. L'appel de Vitinha, Hunder qui manque son contrôle. Il est gêné par Thuram qui récupère le ballon. Thuram qui accélère. Thuram qui va décaler le ballon pour Ramsey sur le côté côté droit maintenant avec la récupération de la board. La board avec Moufi qui fait un appel, contre-appel maintenant. Dos à la défense, dos à Gigot, il se retourne, il va la donner à Thuram. Thuram qui va décaler maintenant avec la montée de Melvin Barr. À côté de lui, il a Sofiane Diop, il va garder le ballon pour centrer vers Moufi. Encore une belle tête défensive de la part de Gigot. Hunder ne peut pas la récupérer. Ce sont les Niçois qui gardent le ballon avec Lotomba qui écarte sur le côté droit. Ramsey à la hauteur de la surface de réparation. Il y a du mouvement, c'est la board qui s'y présente justement et qui est pris par Balerdi et qui va même en perdre le ballon. Rentrée de touche pour l'Olympique de Marseille. 11 minutes de jeu, pas de but, 0-0, mais quel match.
Bonne défense de Balerdi, Flo.
Non mais tu sais, si Balerdi était sûrement l'un des meilleurs Marseillais à Nantes, moi je le trouve plutôt bon en ce moment. Donc c'est vrai que
je te vois un petit peu sévère là-dessus.
Après je pense que t'en rigoles aussi et qu'on en fait une petite fixation.
Je pense pas être quelqu'un de complètement borné. C'est pour ça que j'essaie de changer mon regard sur les...
Donc à chaque fois qu'il va faire une bonne intervention, tu vas le souligner, quoi, c'est ça?
Oui, on va essayer d'utiliser la positive attitude.
Ça va mieux pour les Niçois, en tout cas, hein, monsieur.
Il a fait tourner les Marseillais, puisque avaient plutôt tendance à le siffler, voire à le craindre quand il était titulaire. Et là, vraiment, il fait partie des joueurs qui se font applaudir et en qui les Olympiens ont confiance. Bref, la page Balerdi est tournée, mais effectivement, ouais, les Niçois sont dangereux, mais la Marseille,
ballon. Allez, Bemba qui donne un bon ballon à Vitinha. Vitinha qui va décaler. Et sur la droite avec Jonathan Klaus. Klaus avec Hunder qui garde le ballon. On n'a pas eu droit au 1-2. On revient derrière avec Bemba. Juste à Bemba à l'entrée de la surface de réparation. Payet qui redonne à Bemba. Aïe. Qui se prend les pieds dans le tapis.
C'est pas Cafou non plus.
Non.
Mais non.
C'est cafouillé.
Voilà, c'est cafouillé. Il se fait chambrer à ce niveau-là, je le disais. Et honnêtement, ça fait partie vraiment des joueurs qui aiment avoir cet apport offensif. Lui qui est plutôt pas mal à droite quand il se retrouve dans la surface. Bon là, allez, c'est l'exception qui confirme la règle. Il s'est un petit peu embrouillé et n'a pas maîtrisé ce ballon.
Et Moffi qui récupère le ballon dégagé par Schmeichel, bien défendu de la part de Gigot. Du coup, ils perdent la balle. Là, les Marseillais derrière avec Tavares. L'accélération de Moffi. Attention, le retour de Bemba. C'est bien fait en deux temps, même si c'est quand même pas tout maîtrisé. Mais Bemba fait l'intervention qu'il fallait devant Moffi. Ballon récupéré malgré tout par les Niçois avec Thuram qui crochet. Thuram qui accélère, pris par 1-2-3 Marseillais. C'est Rongier qui aurait eu le dernier mot avec notamment la récupération de balle de Balerdi avec Guendouzi, un petit peu emprunté là, Guendouzi qui finalement réussit à s'appuyer sur Rongier avec Klaus qui va la mettre devant. C'est approximatif, le ballon peut-être récupéré dans l'axe, pourquoi pas, avec Dimitri Payet. Et ça revient sur les défenseurs et le capitaine niçois Dante.
Moffi fait un bon début de match, hein. Vraiment il est intéressant dans ses décrochages, dans sa capacité à garder le ballon de haut but. Et par contre, la dernière chose que je dirais sur Léo, c'est que je lui conseille pas d'être en duel 1-1 avec Moffi, parce qu'il est très très puissant.
Ah ouais, très rapide. Après Balerdi, je sais pas, sur certains coups on l'a vu tenir la distance face à des joueurs plutôt rapides en Ligue 1, donc faudra voir lancer comment ça peut se passer. Là je regardais par contre Tudor justement qui lui demandait de beaucoup mieux se placer, aller au Balerdi. Et puis un autre homme qu'on voit assez peu, enfin dont on pourrait dire un mot, c'est Payet. Tu vois, quand on disait avant le match que Igor Tudor reconnaissait que son style n'était pas forcément le style idéal pour Payet, on le voit là, ça va tellement vite que Payet ne touche très peu de ballon, hein.
Ah, tout à fait,
exactement. Mais je viens de le dire à Thibaut hors antenne, là, je viens de lui dire, tu vois, Payet quand même, ça manque d'intensité pour le jeu de l'OM.
Bah, dans ce jeu-là et dans la volonté que demande Igor Tudor à ses joueurs de bouger, de se déplacer, c'est compliqué, il faut le reconnaître, hein. Maintenant, en point de fixation, il peut être intéressant. Et on l'a vu tout à l'heure sur un des tout premiers ballons qu'il a récupéré sur la gauche. Immédiatement, il a cherché à alerter Vitinha. 14 minutes de jeu pour l'instant, 0-0. Et la grosse occasion, c'était à la troisième minute. Elle était pour les Niçois avec Thuram qui s'est trouvé tout seul et qui n'a pas, lui, trouvé le cadre. Et c'est lui qui récupère le ballon dans le rond central, moitié de terrain niçoise, pour revenir légèrement derrière lui avec Todibo, le jeu en piston avec Ramsey. On revient derrière Todibo pour son capitaine Dante avec Vitinha qui continue de chasser devant le capitaine niçois Thuram qui récupère la balle. Hunder est juste derrière lui, il n'y a plus personne à gauche. Ibar avait pris le couloir, est obligé de revenir derrière avec Schmeichel. On atteint le premier quart d'heure de jeu et donc toujours pour l'instant ce score de 0-0, mais un match, même si ça a baissé un tout petit peu, ça reste quand même un match très intéressant à suivre.
Il est 21h, c'est l'After Live, vous êtes sur
RMC. Attention, le ballon retrait de Todibo. Oh, ballon. Schmeichel n'était pas dans sa cage. Schmeichel a couru après ce ballon. Bon, elle n'était pas non plus trop appuyée, la passe de Todibo. Mais faut des pas jouer avec le feu, les Niçois, de cette manière-là. Attention, le ballon récupéré par Diop au milieu de terrain. Et le très bon travail des Marseillais, notamment avec Rongier qui est venu piquer le ballon dans les pieds de Ramsey. Et Marseille qui va essayer de se relancer avec Guendouzi.
Le temps de score, messieurs.
0-0, ça n'a pas changé. 16 minutes de jeu quasiment.
Le pause dans l'after live. Et puis on revient tout de suite au Vélodrome pour la fin de la 22e journée de Ligue 1. Ce Marseille-Nice avec Kevin Diaz. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'after live.